Louise Cornaz, sous le pseudonyme de Joseph Autier, Madame Récamier. Chapitre 6. Les amis de Madame Récamier. Il serait difficile d'énumérer toutes les personnes illustres avec lesquelles Madame Récamier fut en rapport, même si on voulait borner cette nomenclature à celles qui firent partie de son entourage habituel et restreint. Tout ce que Paris comptait d'hommes marquants dans la politique, les arts, la littérature et la science, tous les étrangers de distinction qui y séjournaient, et ceux-là même qui ne faisaient qu'y passer, tenaient à lui être présentés. Elle était, pour ainsi dire, une des curiosités de la capitale. On allait la voir un peu comme on allait visiter le Louvre ou le Panthéon. Son salon a été un rendez-vous de gens célèbres, une sorte de carrefour des nations, où se sont entrecroisés, sans jamais s'entrechoquer, les rangs, les races et les opinions. Des princes lui offrirent leurs hommages et les déposèrent à ses pieds. Des rois, des souverains furent ses correspondants et s'inclinèrent devant elle. Ainsi, le duc de Mecklembourg-Strelitz, qui lui disait dans toute la sincérité de son admiration enthousiaste, « La beauté ravissante dont le ciel vous doit ne fut que le reflet d'une âme adorable. » La reine Caroline Murat, la reine Hortense, la reine Désirée de Suède, la traitèrent comme leur égale. Elle fut l'amie, la confidente, la consolatrice de la duchesse de Devonshire, de la duchesse de Boigne, de Madame Swetchin, de bien d'autres femmes distinguées et charmantes. Mais il faut se borner à les nommer pour s'arrêter plus longtemps aux quelques figures qui se détachent, en traits très nets, sur ce fond un peu confus de silhouettes aux contours atténués par le temps, aux ombres bleuies par la distance. La première est celle de Lucien Bonaparte. Madame Récamier avait 22 ans. Le frère du premier consul en avait 25 quand ils se rencontrèrent pour la première fois. Il se prit pour elle dès l'abord d'une vive passion qui ne laissa point que de lui causer un certain émoi. Ce qui la garda en cette occasion, comme bien souvent dès lors, ce fut le vif sentiment du ridicule qu'elle possédait. Les lettres de Lucien la firent rire, et quand on a ri d'un amoureux, quand on l'a trouvé absurde, on ne court plus grand risque à l'écouter. L'emphase des lettres du futur roi d'Espagne, son style théâtral, était bien de nature à faire sourire une personne dont le cœur n'était ni gagné, ni même touché d'avance. Ô Juliette, la vie sans l'amour n'est qu'un long sommeil. La plus belle des femmes doit être sensible. Heureux celui qui deviendra l'ami de votre cœur, lui écrivait-il, sous le pseudonyme de Roméo, auquel, très vite, il substitua son véritable nom. Il ne tarda pas à comprendre que la belle Juliette se moquait de lui le plus gracieusement du monde, car une autre de ses lettres se termine par ce post-scriptum. Un ridicule est plus dangereux qu'un crime, lorsque, surtout, il se rapporte à un homme public, sur qui la critique exerce avec tant de plaisir sa maligne influence. Fuis, Juliette, évite le ridicule, adoucis ton malheur par ta philosophie. Soit effet de la philosophie, soit qu'il ait été rebuté par l'indifférence de l'objet de sa flamme, ou distrait par d'autres soucis, la passion de Lucien Bonaparte pour Madame Récamier fut de courte durée. Plus longue et plus sérieuse fut celle qu'elle inspira au prince Auguste de Prusse. Il était, d'après Madame Lenormand, remarquablement beau, brave, chevaleresque, lorsqu'elle le rencontra, à Coppet, lors du premier séjour qu'elle y fit. Ce portrait serait légèrement flatté si l'on en croit une lettre que Benjamin Constant écrivait 10 ans plus tard à Madame Récamier. Le prince Auguste est ici. Il est ce qu'il a toujours été quand l'amour ne le rendait pas pareil aux autres, commun, fier, gauche et bavard, les coudes en dehors et le nez en l'air. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'il était loyal et brave, et même beau, d'après les portraits que l'on a de lui. De plus, il était prince, de vieille race authentique. À côté de lui, Lucien Bonaparte et Bernadotte, qui semblent n'avoir pas échappé à la contagion et soupiré quelque peu pour l'irrésistible Juliette, devaient paraître à celle-ci d'assez petites gens. Elle ne le trouva ni lourd ni bavard. L'amour lui donnait peut-être de l'esprit. En tous les cas, il le rendait éloquent, car il réussit à se faire écouter et même à obtenir la promesse que Madame Récamier écrirait à son mari pour le prier de consentir à un divorce ou plutôt à l'annulation de leur mariage. La lettre fut écrite en effet. Monsieur Récamier répondit qu'il ne se refuserait pas à rendre à sa femme sa liberté si vraiment son bonheur en dépendait. Mais il faisait appel à ses sentiments de générosité, il lui rappelait son affection protectrice et paternelle. Cette réponse accentua les scrupules de Madame Récamier. Elle lui fit comprendre, peut-être, qu'il y avait moins d'amour que de vanité flattée dans la demi-résolution qu'elle avait prise de devenir l'épouse du prince Auguste. En tous les cas, lorsqu'elle quitta Coppet, elle était à peu près décidée à ne plus parler de divorce. Mais elle ne le dit point au prince, auquel elle laissait de vagues espérances qui le leurrèrent pendant longtemps. Une correspondance assez active s'établit entre eux. Elle lui envoya son portrait. Elle ne pouvait se décider ni à le décourager entièrement, ni à tenir la promesse qu'il avait obtenue d'elle un jour. Pendant 4 ans, il attendit sans se plaindre ni s'étonner. La guerre, les malheurs de sa patrie, le sérieux des temps qu'il traversait, lui paraissaient une explication suffisante des retards que subissait son bonheur rêvé. Au bout de 4 ans, il vint jusqu'à Schaffhouse dans l'espoir d'y rencontrer Madame Récamier. Frappée par l'exil, elle ne put se rendre au rendez-vous fixé, et le prince, croyant à un manque de parole de sa part, repartit, fort irrité contre elle. J'espère que ce trait me guérira du fol amour que je nourris depuis 4 ans, écrivait-il à Madame de Staël. Le malentendu s'expliqua, et le fol amour ne guérit point. Le prince Auguste revit Madame Récamier à Paris en 1815. Son patriotisme prussien, très exalté par la victoire, lui nuisait dans l'esprit de sa belle amie, mais ne le sépara pas complètement d'elle. Ils se rencontrèrent encore à Aix-la-Chapelle, puis une dernière fois dans le salon de l'abbaye aux bois, où le prince fit une apparition, comme il traversait Paris en 1825. Son testament donna à Madame Récamier une preuve de l'attachement qu'il conserva pour elle jusqu'à la fin de sa vie. Il lui léguait le portrait qu'elle avait fait peindre pour lui par Gérard, tôt après l'été qui les avait réunis sous les ombrages de Coppet. Mais Lucien Bonaparte et le prince de Prusse ne furent que des épisodes dans la vie de Madame Récamier. D'autres, en très petit nombre, il est vrai, y occupèrent une place prépondérante et ont droit à des chapitres à part. Parler d'eux, c'est parler d'elle encore. Les faire un peu revivre, c'est projeter une lumière plus claire sur son caractère, sur tout son être. À défaut de ses lettres à elle, les leurs l'expliquent, la peignent, la décrivent, tant est vrai cette remarque de Sainte-Beuve que, dans une certaine mesure, on se modèle toujours sur la personne à laquelle on écrit. Chapitre 7. Madame de Staël. Le jour où Madame Récamier fit la connaissance de Madame de Staël, elle ne se doutait guère de l'influence que cette femme déjà célèbre exercerait sur sa destinée. L'attrait très vif qu'elle lui inspira dès l'abord se transforma bientôt en une amitié profonde et si dévouée qu'elle lui sacrifia, sans en avoir jamais exprimé une plainte ni un regret, ses intérêts, son repos et même sa sécurité. Madame Récamier ne serait jamais entrée dans ses intérêts politiques sans l'irritation qu'elle ressentait de l'exil de Madame de Staël, dit Chateaubriand dans les Mémoires d'Outre-Tombe. Il est probable, en effet, que si la vie de l'irréconciliable ennemi de Napoléon n'avait pas croisé la sienne, Madame Récamier n'aurait point été amenée à faire de son salon un centre d'opposition. Sans Madame de Staël, elle n'aurait pas été mise en rapport avec le cercle exceptionnellement brillant qui se réunissait au château de Coppet. Elle n'aurait pas rencontré le prince Auguste de Prusse. Sans elle, elle n'aurait pas été exilée de Paris. Sans elle, enfin, elle ne serait peut-être jamais devenue l'amie de Chateaubriand. L'apparition de Madame de Staël fut, pour elle, pareille à celle d'un astre très brillant, qui l'entraîna dans son orbite et qui orienta son existence d'un côté tout différent de celui vers lequel elle avait penché jusqu'alors. Elles se virent pour la première fois en 1798, époque à laquelle Jacques Récamier acheta un hôtel appartenant à M. Necre, qui avait chargé sa fille de conclure l'affaire pour lui. Madame Récamier a raconté elle-même leur rencontre. Un jour, et ce jour fait époque dans ma vie, M. Récamier arriva à Clichy avec une dame qu'il ne me nomma pas et qu'il laissa seule avec moi dans le salon pour aller rejoindre quelques personnes qui étaient dans le parc. Cette dame venait pour parler de la vente et de l'achat d'une maison. Sa toilette était étrange. Elle portait une robe du matin et un petit chapeau orné de fleurs. Je la pris pour une étrangère. Je fus frappée de la beauté de ses yeux et de son regard. Je ne pouvais me rendre compte de ce que j'éprouvais, mais il est certain que je songeais plus à la reconnaître et, pour ainsi dire, à la deviner, qu'à lui faire les premières phrases d'usage lorsqu'elle me dit, avec une grâce vive et pénétrante, qu'elle était vraiment ravie de me connaître, que M. Necre, son père... À ces mots, je reconnus Madame de Staël. Je n'entendis pas le reste de sa phrase. Je rougis. Mon trouble fut extrême. Je venais de lire ses lettres sur Rousseau. Je m'étais passionnée pour cette lecture. J'exprimais ce que j'éprouvais plus encore par mes regards que par mes paroles. Elle m'intimidait et m'attirait à la fois. On sentait tout de suite en elle une personne parfaitement naturelle, dans une nature supérieure. De son côté, elle fixait sur moi ses grands yeux, mais avec une curiosité pleine de bienveillance, et m'adressa sur ma figure des compliments qui eussent paru exagérés et trop directs s'ils n'avaient pas semblé lui échapper, ce qui donnait à ses louanges une séduction irrésistible. Mon trouble ne me nuisit point. Elle le comprit et m'exprima le désir de me voir beaucoup à son retour à Paris, car elle partait pour Coppet. Ce ne fut alors qu'une apparition dans ma vie, mais l'impression fut vive. Je ne pensais plus qu'à Madame de Staël, tant j'avais ressenti l'action de cette nature si ardente et si forte. L'attraction fut réciproque. Madame de Staël, qui ne se consola jamais d'être laide, se prit d'une immense admiration pour la beauté de Madame Récamier. De son côté, celle-ci semblait compter sa beauté pour rien, en regard du génie de son amie. Peut-être n'eût-elle pas hésité à faire entre elles l'échange des dons, divers à tous égards, qui faisait d'elle les deux femmes les plus remarquées de l'Europe. Car celle qui était belle avant tout croyait à la toute-puissance de l'esprit, tandis que celle qui possédait une intelligence hors de pair était persuadée que les charmes extérieurs priment tous les autres. Elle se trompait également en s'enviant ainsi mutuellement, car Madame Récamier aurait pu s'écrier aussi bien que Madame de Staël « La gloire pour une femme n'est que le deuil éclatant du bonheur ». Mais Madame Récamier ne dut pas à sa figure seule l'affection passionnée qu'elle inspira à Madame de Staël. Elle en fut en grande partie redevable à ce que, mieux que personne, elle savait écouter. Elle était une auditrice parfaite. Aussi est-il probable que si les lambris des salons de Coppet pouvaient parler, les conversations entre les deux amis qu'ils rapporteraient ne seraient guère que des monologues de la châtelaine. Rien n'était plus attachant, dit Benjamin Constant, que les entretiens de Madame de Staël et de Madame Récamier. La rapidité de l'une a exprimé mille pensées neuves, la rapidité de l'autre à les saisir et à les juger. Cet esprit mâle et fort qui dévoilait tout, et cet esprit délicat et fin qui comprenait tout, ces révélations d'un génie exercé, communiquées à une jeune intelligence digne de les recevoir, tout cela formait une réunion qu'il est impossible de peindre sans avoir eu le bonheur d'en être témoin soi-même. Ce devait, en effet, être pour les privilégiés qui les virent ensemble à Coppet un spectacle singulièrement attachant que celui de cette intimité que ne troubla jamais aucune rivalité et que nulle pensée jalouse n'effleura. Auprès de son impérieuse et bruyante hôtesse, Madame Récamier apparut au prince Auguste de Prusse timide et douce comme une pensionnaire. Ce fut en l'entendant jouer de la harpe le soir et en se promenant avec elle dans les grandes allées du parc ou le long du ruisseau qui le borde qu'il s'éprit pour elle de ce fol et touchant amour auquel il offrait de sacrifier son rang et ses brillantes perspectives d'avenir. Le roman, très peu banal, qui s'ébouchait auprès d'elle, était fait pour séduire l'imagination ardente de Madame de Staël. Et si Madame Récamier crut pendant un instant qu'elle répondait à la passion du prince, il est probable que les discours enflammés de son amie y étaient bien pour quelque chose. Sans cesse, d'ailleurs, Madame de Staël s'efforçait de mettre en pleine valeur et de faire briller celle qu'elle appelait son ange, son adorable Juliette. Elle n'y réussissait pas toujours, ainsi que ce fut le cas quand elle lui persuada de jouer le rôle d'Aricie, tandis qu'elle-même faisait Phèdre et Benjamin Constant Thésée, dans une de ses représentations théâtrales qui attirait à Coppet, nous dit Madame Lenormand, la plus brillante foule de curieux et de moqueurs. Il y avait en Madame Récamier, malgré son immense habitude du monde, un fond de timidité qui la paralysait. Aussi n'eut-elle sur la scène qu'un succès de beauté. Les lettres de Madame de Staël à Madame Récamier sont pleines d'effusions et de témoignages d'affection. Le cœur y tient plus de place que l'esprit. Elles ont une grâce, une simplicité qu'on ne rencontre guère ailleurs sous sa plume. Chateaubriand en a fait la remarque, toujours dans les mémoires d'outre-tombe. Il n'y a rien dans les ouvrages imprimés de Madame de Staël qui approche de ce naturel, de cette éloquence où l'imagination prête son expression au sentiment. La vertu de l'amitié de Madame Récamier devait être grande, puisqu'elle sut faire produire à une femme de génie ce qu'il y avait de caché et de non révélé encore dans son talent. Il semble qu'il ait fallu du temps à Madame Récamier pour se sentir tout à fait à l'aise vis-à-vis de sa grande amie, car celle-ci lui écrivait au mois de mai 1810 « J'espère que vous avez perdu cette singulière timidité que vous éprouviez en m'écrivant. N'avez-vous pas bien vu que je vous aimais et que cet esprit dont vous m'accusiez ne servait qu'à mieux vous deviner et à trouver de nouvelles raisons pour vous être tendrement attaché ? » Ce n'est cependant qu'à partir du moment où Madame Récamier perdit pour la première fois sa fortune que sa liaison avec Madame de Staël devient tout à fait intime. La lettre qu'elle en reçut à cette occasion est datée de Genève. « Ah, ma chère Juliette, quelle douleur j'ai éprouvée par l'affreuse nouvelle que je reçois, que je maudis l'exil qui ne me permet pas d'être auprès de vous, de vous serrer contre mon cœur. Vous avez perdu tout ce qui tient à la facilité, à l'agrément de la vie. Mais s'il était possible d'être plus aimée, plus intéressante que vous ne l'étiez, c'est ce qui vous serait arrivé. Je vais écrire à M. Récamier que je plains et que je respecte. Mais dites-moi, serait-ce un rêve que l'espoir de vous revoir ici cet hiver? Si vous vouliez, 3 mois passés dans un cercle étroit où vous seriez passionnément soigné. Mais à Paris aussi, vous inspirez ce sentiment. Enfin, au moins à Lyon, où jusqu'à mes 40 lieues j'irai pour vous voir, pour vous embrasser, pour vous dire que je me suis senti pour vous plus de tendresse que pour aucune femme que j'ai jamais connue. Je ne sais rien vous dire comme consolation, si ce n'est que vous serez aimé et considéré plus que jamais, et que les admirables traits de votre générosité et de votre bienfaisance seront connus malgré vous par ce malheur, comme ils ne l'auraient jamais été sans lui. Certainement, en comparant votre situation à ce qu'elle était, vous avez perdu. Mais s'il m'était possible d'envier ce que j'aime, je donnerais bien tout ce que je suis pour être vous. Beauté sans égale en Europe, réputation sans tache, caractère fier et généreux. Quelle fortune de bonheur encore dans cette triste vie où l'on marche si dépouillé. Chère Juliette, que notre amitié se resserre, que ce ne soit plus simplement des services généreux qui sont tous venus de vous, mais une correspondance suivie, un besoin réciproque de se confier ses pensées, une vie ensemble. Chère Juliette, ce luxe qui vous entourait, c'est nous qui en avons joui. Votre fortune a été la nôtre, et je me sens ruinée parce que vous n'êtes plus riche. Croyez-moi, il reste du bonheur quand on sait se faire aimer ainsi. Cher ami, que votre cœur soit calme au milieu de ces douleurs. Hélas, ni la mort, ni l'indifférence de vos amis ne vous menacent. Et voilà les blessures éternelles. Adieu, cher ange, adieu. J'embrasse avec respect votre visage charmant. Necker de Stahlenstein. Il faudrait pouvoir citer tout au long bien des lettres encore. À leur défaut, quelques passages détachés feront comprendre la tendresse profonde de Madame de Staël pour la femme dont elle enviait le charme, tout en le subissant plus que personne. Vous qui me connaissez, vous savez combien il est facile d'obtenir ma bienveillance et difficile d'entrer dans mon cœur. Vous qui y êtes comme souveraine, dites-moi si vous me ferez jamais de la peine. Vous en auriez à présent terriblement le pouvoir. Je suis retombée, après votre départ, dans une langueur incroyable. Vous étiez pour moi le rapport avec l'espérance. N'êtes-vous pas heureuse de pouvoir, à votre gré, inspirer un sentiment absolu à qui vous a vu seulement quelques jours? Je vous l'ai dit souvent, je ne connais sur cette terre rien qui doive autant plaire à l'imagination et même à la sensibilité, car on est toujours sûr ainsi d'être aimé de ce qu'on aime. Je vous ai dit 1000 fois que vous étiez le plus heureux des êtres et vous ne voulez pas me croire. Je sais cependant l'impression que vous faites, et je sais qu'elle a quelque chose de magique et d'attachant à la fois qui me paraît le sublime bonheur terrestre. Quel charme dans votre manière d'écrire! Si je voulais faire un roman, y mettre un être céleste, ce sont vos propres expressions, sans y changer une ligne, que je prendrais. Mais ce charme, toujours croissant, m'inquiète, comme quand le regard d'Albertine est céleste, il me semble qu'elle va tomber malade. Toute la société d'ici m'a reçue à ravir et m'a parlé de ma belle amie avec admiration. Vous avez une réputation aérienne que rien de vulgaire ne peut atteindre. Le bracelet que vous m'avez donné m'a fait baiser la main un peu plus souvent, et je vous renvoie tous les hommages qu'il obtient. Qui donc, excepté vous, Mathieu de Montmorency, et j'ose dire moi, sait être bien pour une amie malheureuse? Je suis une personne avec laquelle et sans laquelle on ne peut vivre, non que je sois despotique ou amère, mais je semble à tout le monde quelque chose d'étrange, qui vaut mieux et moins que le cours habituel de la vie. Enfin, comme vous êtes plus jeune que moi, que votre esprit comprend tout, quand je ne serai plus, vous raconterez tout cela avec un sentiment de bienveillance qui l'expliquera. J'ai tous les mauvais présages du monde au commencement de cette année. Ne vous verrai-je donc pas, cher ami, qui dispose en rien de son existence? Une seule chose est fixe en ce monde, c'est ce qu'on peut faire pour le devoir. Adieu, cher ange, promettez-moi de me garder cette amitié qui m'a valu des jours si doux. Vous avez un caractère d'une étonnante noblesse, et le contraste de vos traits si délicats et si gracieux, avec une si grande fermeté d'âme, est quelque chose d'incomparable. Vous êtes la plus aimable personne du monde, chère Juliette, mais vous ne parlez pas assez de vous. Vous mettez votre esprit, votre charme dans vos lettres, mais jamais ce qui vous concerne. Donnez-moi des détails sur vous. Ma vie est triste ici. Schlegel a des défauts qui me cachent quelquefois ses vertus. Et puis, je ne sais pas vaincre mes souvenirs et mes goûts de France. Ah, vous qui réunissez tout ce qui me plaît dans ce genre à tout ce que j'estime ailleurs, faut-il donc que je sois ainsi séparée de vous? S'il m'est donné de vous revoir, vous et Mathieu et mon pays, quelques années avant de mourir, je serai contente de mon sort. Je me suis créé un travail qui m'est nécessaire. Il a un avenir. Je crois vous avoir mandé que c'est un poème historique de Richard. Les recherches qu'il exige me conviennent dans ce moment. Cela me soutiendra quelque temps encore. Dieu tend toujours sa main dans la détresse. Vous ne pouvez pas vous faire une idée, mon ange, de l'émotion que votre lettre m'a causée. C'est au fond de la Moravie, près de la forteresse d'Olmutz, que ces paroles célestes me sont arrivées. J'ai pleuré des larmes de douleur et de tendresse en entendant cette voix qui m'arrivait comme l'ange d'Agar. Mon Dieu, si l'on ne m'avait pas séparé de vous, je ne serais pas ici. Faites que de temps en temps un mot de vous m'arrive, qui soit pour le passé ce que la prière est pour l'avenir, un éclair d'un autre monde. Madame de Staël morte n'occupa point dans la vie et le cœur de Madame Récamier moins de place que de son vivant. L'ami enlevé à sa tendresse devenait pour elle l'objet d'un culte, dit Madame Lenormand. La mort la consacrait par une sorte d'apothéose, et la pensée de Madame Récamier ne cessait de s'attacher à tout ce qui pouvait faire vivre et perpétuer la mémoire qui lui était chère. 15 ans après avoir perdu cette amie à laquelle elle avait été si passionnément dévouée, Madame Récamier s'arrêta pour un jour à Coppet avec Chateaubriand. C'était l'automne. Le château était désert. Les feuilles mortes jonchaient déjà les allées du parc. Ils les parcoururent ensemble, avec un sentiment de profonde mélancolie. Puis Madame Récamier obtint seule la permission de pénétrer dans le bois entouré d'un mur, au milieu duquel se trouve la crypte où reposent Monsieur et Madame Ner et Madame de Staël. Madame Récamier, pâle et en larmes, est sortie du bocage funèbre, elle-même comme une ombre, dit Chateaubriand. Si j'ai jamais senti à la fois la vanité et la vérité de la gloire et de la vie, c'est à l'entrée du bois silencieux, obscur, inconnu, où dort celle qui eut tant d'éclat et de renom, et en voyant ce que c'est que d'être véritablement aimée. Juliette Récamier a-t-elle songé, auprès du tombeau solitaire, si bien gardée contre les regards curieux ou indifférents, à tout ce qu'elle fut pour la femme célèbre et malheureuse qu'elle pleurait. Il est probable que non, tant elle avait coutume de s'oublier elle-même. Mais si elle l'a fait, elle aura pu se dire qu'elle a été, pour Madame de Staël, ce qu'est, pour le voyageur qui traverse le désert, la source d'eau fraîche, pure et limpide. Chapitre 8. Mathieu de Montmorency. Au premier rang de ceux qui, au retour de l'émigration, formèrent la société de Madame Récamier, se trouva bientôt le vicomte, plus tard duc, Mathieu de Montmorency. Après quelques années d'une vie dominée par une grande passion et toute consacrée aux plaisirs du monde, il s'était jeté dans le courant des idées révolutionnaires qui commençaient à gagner des adhérents dans les rangs de l'aristocratie française. Ce fut sur sa proposition que l'Assemblée constituante vota l'abolition des privilèges de la noblesse. Mais les excès de la Révolution, dont il avait salué l'aube avec espoir, le forcèrent à s'émigrer à son tour en 1792. Peu après, son frère, l'abbé de Laval, mourait sur l'échafaud. Mathieu de Montmorency en éprouva un désespoir terrible. Cette mort qu'il s'accusait d'avoir causée bouleversa profondément tout son être. Quand il sortit de cette crise, il était devenu un homme nouveau. Le bouillant gentilhomme devait être désormais un chrétien sincère et convaincu. Fort attaché déjà à Madame de Staël, il fit à Madame Récamier, dès qu'il l'eut vue, une place très à part et très large dans ses affections. Il craignait pour elle les séductions du monde. Il tremblait de la voir s'abandonner sans contrainte au désir de plaire. Il aurait voulu à tout prix tourner son cœur vers ce qu'il considérait comme la source unique du véritable bonheur. Souvent, il s'excusait de lui faire des sermons. Il exprimait la crainte de lui paraître trop prêcheur. Cette crainte devait être vaine, car le terrain dans lequel il jetait la semence était loin d'être réfractaire aux idées religieuses. Madame Récamier écrivait elle-même, en parlant de son séjour au couvent de la Déserte, « C'est sans doute à ces vives impressions de foi, reçues dans l'enfance, que je dois d'avoir conservé des croyances religieuses au milieu de tant d'opinions que j'ai traversées. J'ai pu les écouter, les comprendre, les admettre, jusqu'où elles étaient admissibles, mais je n'ai point laissé le doute entrer dans mon cœur. » Elle écoutait certainement sans impatience les exhortations de Mathieu de Montmorency et devait prendre un plaisir reconnaissant à lire les lettres qu'il lui adressait. Au début de leur relation, c'est surtout de ses charités qu'il lui parle. C'est à ses pauvres qu'il cherche à l'intéresser. « Vous êtes trop bonne et trop généreuse, si on peut l'être trop, lui écrit-il. Vous acquittez avec une ponctualité bien aimable les dettes même des jours d'opéra et de grande parure. Vous me pardonnerez un sermon de plus contre la parure, car elle prive du bonheur de vous voir. Je ne donnerai pas tous les trésors que vous m'envoyez aux mêmes personnes dont je vous parlais hier. Mais je réserve cette petite caisse pour les charités les plus intéressantes. Heureux d'être l'intermédiaire de vos bonnes actions, d'y être associé avec vous, et pensant de toute mon âme qu'on ne peut jamais causer quelques instants avec vous sans trouver une nouvelle raison de vous aimer et de vous estimer davantage. » Puis, l'intimité augmentant, les lettres deviennent plus sérieuses et plus incisives. « Je voudrais réunir tous les droits d'un père, d'un frère, d'un ami, obtenir votre amitié, votre confiance entière pour une seule chose au monde, pour vous persuader votre propre bonheur et vous voir entrer dans la seule voie qui peut vous y conduire, la seule digne de votre cœur, de votre esprit, de la sublime mission à laquelle vous êtes appelé. en un seul mot, pour vous faire prendre une résolution forte. Car tout est là. Faut-il vous l'avouer? J'en cherche en vain, avec avidité, quelques indices dans tout ce que vous faites, dans tous ces petits détails dont aucun ne m'échappe. Rien, rien qui me rassure, rien qui me satisfasse. Ah, je ne saurais vous le dissimuler. J'emporte un profond sentiment de tristesse. Je frémis de ce que vous êtes menacé de perdre en vrai bonheur et moi en amitié. Dieu et vous me défendez de me décourager tout à fait. J'obéirai, je prierai sans cesse. Ceci seul peut dessiller vos yeux et vous faire sentir qu'un cœur qu'il aime véritablement n'est pas si vide que vous semblez le penser. Lui seul peut aussi vous inspirer un véritable attrait, non de quelques instants, mais constant et soutenu pour des œuvres et des occupations qui seraient en effet bien appropriées à la bonté de votre cœur et qui rempliraient d'une manière douce et utile beaucoup de vos moments. Ce n'est point en plaisantant que je vous ai parlé de m'aider dans mon travail sur les sœurs de charité. Rien ne me serait plus agréable et plus précieux. Cela répandrait sur mon travail un charme particulier qui vaincrait ma paresse et m'y donnerait un nouvel intérêt. Faites tout ce qu'il y a de bon, d'aimable, ce qui ne brise pas le cœur, ce qui ne laisse jamais aucun regret. Mais au nom de Dieu, au nom de l'amitié, renoncez à ce qui est indigne de vous, à ce qui, quoi que vous fassiez, ne vous rendrait pas heureuse. Soyez sûr qu'il est impossible de mesurer d'avance les infinies miséricordes de celui à qui vous voulez vous adresser sincèrement, et les changements merveilleux et tout à fait imprévus qu'il opère dans une âme régénérée par une piété vraie. Je compte les jours qui vous séparent encore de cette régénération tant désirée par vos plus vrais amis. Je compte aussi, tout bonnement, les jours qui se passeront sans vous voir. Votre cœur touché s'adresse souvent à Dieu, vous me l'avez dit. Conservez et multipliez cette excellente habitude. J'espère que nos pensées se rencontrent déjà et se rencontreront souvent dans ce chemin. Mon dernier vœu, que vous me pardonnerez, c'est que vous ayez toujours un peu d'ennui de vos soirées et de bien des personnes qu'on appelle aimables. N'est-ce pas là un souhait bien méchant? Cependant, je vous proteste que l'intention ne l'est pas. Je ne suis pas sans crainte sur les effets journaliers de cet entourage de futilité qui ne vaut rien pour vous, et vaut bien moins que vous. Quand vous n'avez rien lu de sérieux dans votre journée, que vous avez trouvé à peine quelques moments pour réfléchir, et que vous passez le soir 3 ou 4 heures dans une certaine atmosphère, contagieuse de sa nature, vous vous persuadez alors que vos idées ne sont pas arrêtées, qu'il faudrait recommencer un examen qui doit avoir été fait une fois et être ensuite posé comme une base fixe qu'il n'est plus question d'ébranler. Vous vous découragez, vous vous effrayez vous-même. Ah, je vous supplie, au nom de ma triste et trop personnelle expérience, de ne pas vous laisser aller à cette mauvaise disposition. Gardez-vous de reculer. Vous en seriez un jour inconsolable. Cela ne suffit même pas. N'avancez pas bien vite si vous ne vous en sentez pas la force, mais au moins quelques pas en avant. Croyez aux vœux les plus tendres et en même temps aux conseils les plus sages. J'espère que vous n'avez oublié la promesse d'une demi-heure par jour de lecture suivie et sérieuse. Ces deux conditions sont indispensables. Et celle aussi de quelques moments de prière et de recueillement. Est-ce trop demandé pour le plus grand intérêt de la vie, on pourrait dire l'unique? 7 ans plus tard, en 1810, dans la période tourmentée qui suivit les séjours à Coppet de Madame Récamier, alors qu'elle allait être exilée de Paris, pour avoir témoigné trop hautement son opinion au sujet des rigueurs dont Madame de Staël était l'objet, Mathieu de Montmorency lui écrivait encore. « J'ai tardé, aimable ami, à répondre à votre dernière lettre. Le sentiment profond de tristesse qui y régnait m'allait trop au cœur pour que mon silence pût être de l'indifférence. Mais je sentais trop l'insuffisance de ces vaines paroles d'une lettre pour porter quelque consolation, quelque nouvelle force dans un cœur comme le vôtre. Vous me laissiez entrevoir quelques-unes des causes de votre disposition mélancolique. Vous commencez quelques aveux que je crains et désire voir achevés. Car je vous préviens que je serai sévère pour ces misérables distractions qui vraiment ne méritent pas le nom de consolation, qui sont des espèces de jeux où l'on ne conçoit pas bien le sérieux ni d'un côté ni de l'autre. Mais ce que je redoute avant tout, ce que je vous supplie d'écarter par tout ce que le raisonnement a de force et le cœur d'énergie, c'est le découragement, ennemi de tout bien et de toute résolution généreuse. Le divin maître que nous servons ne nous permet pas de désespérer quand nous avons un vrai désir de marcher sous ses étendards. Il ne nous abandonnera pas. Il nous fera vaincre tous les obstacles si nous nous adressons sans cesse à lui. Ne négligez donc pas cette unique ressource. On n'était pas, à ce moment-là, impunément fidèle à Madame de Staël. Mathieu de Montmorency devait en faire l'expérience, comme Madame Récamier. Il fut même exilé quelques jours avant elle. Tandis qu'il était confiné au château du Montmirail, chez le duc de La Rochefoucauld-Doudeauville, Madame Récamier s'établissait à Châlons, où il lui écrivait le 13 décembre 1811, pour lui donner des nouvelles de leur amie commune, dont il venait de recevoir une lettre, qui avait de grosses taches ressemblant à des larmes. « Combien je lui voudrais, disait-il, la force de caractère que vous montrez en ce moment, et qu'elle fût aussi tout près, comme vous, de la source unique des véritables consolations. Ah, vous finirez par y arriver tout à fait, et vous nous aiderez à obtenir qu'elle vous suive. » Madame de Staël avait été un lien de plus entre Mathieu de Montmorency et Madame Récamier. L'amitié profonde qui les unissait tous les trois ne connut jamais ni intermittence, ni jalousie. Mais elle morte, l'affection des deux survivants se trouble légèrement. La belle Juliette, absorbée par Chateaubriand, supporte avec quelque impatience des avertissements, des conseils dictés surtout par la crainte de voir sombrer tout à coup le repos d'un cœur si longtemps gardé. Une lettre de M. de Montmorency, sans date, mais qui doit avoir été écrite à la fin de l'été de 1818, parle d'un incroyable silence, d'une froideur subite qu'il ne croit pas avoir méritée. « J'ai la conscience, dit-il, d'avoir tous les droits, au nom du plus pur des sentiments, au nom d'une amitié qui voudrait être aussi constante que vive et qui ne désire que votre bonheur sur cette terre et au-delà. Peut-être cette affection pure et inaltérable, vaut-elle bien toutes ces illusions passagères qui vous fascinent en ce moment? Ah, madame, quel rapide progrès a fait en quelques semaines ce mal qui vous fait craindre vos plus fidèles amis? Cette pensée ne vous fait-elle pas frémir? Ah, recourez, il en est toujours temps, à celui qui donne la force, quand on le veut bien, de tout guérir, de tout réparer. Dieu et un cœur généreux peuvent tout ensemble. Je le supplie du fond de mon âme, et par l'hommage de tous mes vœux, de vous soutenir, de vous éclairer, de vous empêcher par un secours puissant d'enlacer de vos propres mains un lien malheureux qui en ferait d'autres encore que vous. » Mais le nuage ne dura pas. Le trouble disparut avec l'inquiétude qu'il avait causée. Madame Récamier s'était ressaisie. Son imagination calmée avait laissé son cœur revenir aux sentiments doux et tendres pour lesquels il était fait beaucoup plus que pour un amour ardent, excessif ou passionné. Elle redevenait l'amie par excellence, comme l'appelle Madame Lenormand. Elle l'avoue à Monsieur de Montmorency, qui lui répond « S'il a jamais été pressant de réparer ses torts, de retirer et d'abjurer ses reproches, c'est lorsqu'on a reçu une lettre aussi parfaite que la vôtre, aimable amie. La mienne était à peine partie par notre courrier ordinaire que j'ai vu arriver cette charmante petite écriture. Un premier remords m'a saisi. Il a augmenté et s'est emparé de mon âme tout entière quand j'ai lu les touchantes confidences de votre amitié, les triomphes de votre raison et toutes les pensées mélancoliques que je n'ai pas le courage de vous reprocher quand elles n'aboutissent qu'à vous faire aimer notre pauvre Val et à me faire accorder un privilège exclusif d'admission et de consolation. » Ce Val était le Val du Loup, campagne appartenant à Châteaubriant. Madame Récamier l'avait loué de moitié avec Monsieur de Montmorency. Elle y passa l'automne de 1818 et tout l'été de 1819. Monsieur de Montmorency venait souvent l'y rejoindre, sans que jamais ses séjours en commun aient donné lieu à des commentaires malveillants. L'un et l'autre étaient au-dessus du soupçon, et le monde, ainsi que le disait la duchesse de Breuil, ne s'y trompa point. « Je me présente votre petit ménage du Val-du-Loup comme le plus gracieux du monde, » écrivait-elle à Madame Récamier le 15 juillet 1819. Mais quand on écrira la biographie de Mathieu dans la vie des saints, convenez que ce tête-à-tête avec la plus belle et la plus admirée femme de son temps sera un drôle de chapitre. « Tout est pur pour les purs, » dit saint Paul, et il a raison. Le monde est toujours juste. Il devine le fond des cœurs. Il ajoute au mal, mais il ne l'invente jamais. Aussi, je crois que l'on perd toujours sa réputation par sa faute. Pour rassurer qu'il fût au sujet de Chateaubriand, Mathieu de Montmorency ne se méfia pas moins toujours un peu de celui qui lui apparaissait comme un rival dont l'influence ne pouvait être que fâcheuse. Rivaux, il était d'ailleurs en politique aussi bien qu'en leur qualité d'amis de la même femme. Très différents dans leurs opinions, mêlés tous deux de très près aux affaires pendant le règne de Louis XVIII, délégués l'un et l'autre au congrès de Vérone, ministres l'un après l'autre, ils avaient peine à se comprendre et à s'entendre, et il fallait, pour prévenir d'incessants conflits entre eux, toute la puissance d'apaisement que possédait Madame Récamier. Jamais, en lui écrivant, le duc de Montmorency ne nommait Chateaubriand. C'était toujours « lui » ou « on » ou encore « le noble ami ». Chateaubriand, de son côté, disait « Mathieu » tout court, et il ne prenait pas la peine de le craindre. La pensée que quelqu'un pût lui porter ombrage n'était pas de celle qu'il abordait. Tant que Mathieu de Montmorency vécut, il ne cessa de témoigner à Madame Récamier la même affection sérieuse, de lui exprimer le même désir de l'avoir jeté l'ancre dans le port du salut éternel. Il venait d'être nommé gouverneur du duc de Bordeaux, à la satisfaction générale, quand le 24 mars 1826, au moment où il s'agenouillait dans l'église de saint Thomas d'Aquin à l'heure de la messe, on le vit s'affaisser si bas que son front touchait presque la terre. Priait-il avec une ferveur toujours plus profonde dans cette attitude prosternée? On le crut pendant un moment. Puis, on s'approcha pour le relever. Mathieu de Montmorency était mort, et Madame Récamier avait perdu son guide le plus sûr.